Eric Manelakiza avec vous. Bonsoir, chers amateurs sportifs. C'est le moment de suivre votre émission Sporama. Bienvenue encore une fois, auditeurs de VOA Afrique, dans Sporama, votre rendez-vous hebdomadaire pour tout ce qui fait vibrer le monde du sport. Résumé, analyse, débat passionné, moments forts. Nous couvrons chaque discipline avec un regard expert et une touche de dynamisme, que vous soyez fan de foot, de basketball, de tennis ou de sport émergent. Sporama est là pour vous informer et vous divertir. Nous sommes en ligne avec nos consultants sportifs, Amine Birouko Maroc. Bonsoir Amine.
Bonsoir Eric, bonsoir à tous.
Jules Valentin Gouet, bonsoir Jules.
Bonsoir Eric, bonsoir à tous.
Bonsoir Amédine Si, bonsoir.
Bonsoir Eric et bonsoir à tous les auditeurs de la VOA Afrique.
Élisée Ongpatine, bonsoir Élisée.
Oui, bonsoir Eric et bienvenue au Bénin.
Merci beaucoup et nous avons eu une semaine très riche en activités sportives, n'est-ce pas Élisée? Je vais commencer avec vous. Le TP Mazembe a remporté la Ligue des champions féminines au Maroc. Les Congolaises entrent dans l'histoire, c'est leur premier trophée.
Et bien évidemment, leur premier trophée est remporté sur la tête de leur entraîneur, il faut le dire, puisque c'est une dame qui entraîne le tout-puissant Mazembe, la section féminine de football des Corbeaux. Et bien, cette Marocaine fut ancienne internationale marocaine, hein, qui a permis justement à l'équipe féminine du tout-puissant Mazembe de Lumumbashi de remporter sa première édition de la Ligue des Champions, la Ligue des Champions réservée aux filles. Et bien évidemment, c'était au Maroc où les Congolaises ont battu 1-0 les Marocaines. Un pénalty obtenu à la 8e minute de jeu, transformé par l'attaquante de cette formation congolaise. Et bien, les Marocaines, les filles militaires du Rabat ont couru derrière l'égalisation en vain, déjà en poule, hein, il faut le rappeler. Et bien, les Marocaines les avaient déjà battues 3-1, donc une revanche très bien maîtrisé par les Congolaises, et ce qui permet justement à l'équipe chère, à Moïse Katumbi, qui était justement du côté du Maroc pour supporter sa sélection, eh bien, Mazembe remporte cette première édition, et en imitant bien sûr les hommes qui ont déjà remporté le trophée chez les messieurs 5 fois.
Oui, Jules, vous avez suivi cette rencontre. Qu'est-ce qui a fait que le Maroc, finalement, ne gagne pas ce trophée alors qu'il y a 2 joueuses qui ont été récompensées au sein de cette équipe marocaine?
Mais justement, c'est parce que le Maroc partait favori de par d'abord son jeu, la qualité de son jeu collectif, et de par sa capacité à avoir la possession, à priver l'adversaire du ballon, mais dans la latéralité. Et le Maroc avait en quelque sorte presque tout le temps de gagner, enfin l'équipe marocaine. Bon, mais une finale est un match à part, et la sélection, disons que l'entraîneur marocain du tout-puissant Mazembe a fait mieux entrer les Congolaises dans le match, et leur a demandé en quelque sorte de jouer, de ressortir, de densifier la défense, de ressortir en profondeur très rapidement. Donc de mettre en danger l'équipe de l'ASFAR qui ma foi fait beaucoup d'échanges de ballons au milieu du terrain, et ça finit par payer. Il faut dire que une finale ça ne se joue pas, une finale ça se gagne.
Amédine Si, est-ce que Mazembe vous a surpris?
Oui, Mazembe m'a surpris, il faut le dire, parce que quoi qu'on dise, le foot féminin marocain est en train de franchir un grand cavant, il faut le dire. Les Marocains ont beaucoup investi dans ce domaine, et cela a commencé à porter ses fruits. Mais comme on est en sport, à chaque fois il y a des surprises qui font le charme aussi du sport. Mais le tout-puissant Mazembe, après avoir régné en maître chez les hommes, est en train aussi de tisser sa toile. Je dis chapeau à ces Congolaises qui ont quand même réalisé un exploit face aux Marocaines, Eric.
Amine, la déception ne manque pas au Maroc. C'est un trophée qui passe entre les mains de cette équipe marocaine qui était pourtant favorite.
C'est un trophée qui devait rester logiquement payé parce que l'équipe de l'ASFAR a gagné tous ses matchs depuis le démarrage de la compétition, y compris la rencontre de Poul face au TP Mazembe. Mais il y avait un premier coup de semonce, parce que dans le match de Poul, Mazembe a mené au score à la mi-temps, elle a même failli aggraver la marque et le deuxième but a été injustement refusé. Et c'est dans la deuxième partie du match que l'équipe militaire marocaine avait pu réagir. Cette fois-ci, sans ressort, sans peut-être cette fraîcheur physique et mentale, il y a eu donc cette faillite collective et donc cette défaite. Il faut saluer le travail qui a été effectué par la coach, Lamia Boumaidi, ex-internationale marocaine, qui a commencé quasiment de zéro avec la section féminine du TP Mazembe et qui a mené cette équipe vers le sacre. Maintenant, ce n'est que partie remise. Il faut rappeler que la prochaine CAN féminine, c'est au Maroc. Et il y aura, après le tirage au sort effectué vendredi, des retrouvailles entre le Maroc et la République démocratique du Congo. Donc, il y aura également le Sénégal dans le groupe du Maroc et la Zambie. Ce sera des retrouvailles aux allures de revanche pour de nombreuses joueuses de la SFAR et notamment deux des joueuses qui ont été sélectionnées dans l'équipe type de la compétition et qui font également, pour l'une d'entre elles, partie des CAF Awards féminins, à savoir Sana Msouni, plus la jeune Doha Madani, qui a fini meilleure buteuse de la compétition avec ses réalisations. Ce n'est donc que partie remise. Rendez-vous en juillet prochain au Maroc.
Chez les hommes, la compétition débute ce mardi, avec notamment le duel attendu entre les militaires d'AS FAR et le Raja de Casablanca, un duel à 100% marocain. Suivez la déclaration de Hubert Vélude, entraîneur des FAR de Rabat.
Allô?
Nous essayons d'avoir l'extrait de la conférence de presse de l'ambassadeur, de l'entraîneur plutôt, des phares de Rabat, Hubert Vélude.
Comme si je me trompe, vous avez une forte expérience sur le sol africain. Donc vous coachez depuis 2009-2010 dans les plus grandes compétitions à l'échelle continentale. Donc contrairement au coach du Raja, vous partez avec un avantage. J'imagine que vous avez suivi le parcours de l'Espar l'année dernière. Ça a été très serré, aussi bien en Coupe du Trône qu'en championnat. Est-ce que vous appréhendez ce match de demain comme une revanche par rapport à ce qui s'est passé peut-être la saison passée, et dans quel état d'esprit vous êtes par rapport à la rencontre de demain? J'ai une autre question pour le capitaine.
Par rapport à la question de la formation de Madame tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est vrai que cet aspect-là, il y a à la fois la compétition qui est la Ligue des Champions, qui a des particularités, et c'est également le Raja. Donc, bien sûr, je connais bien ces matchs-là, mais là, on est dans un contexte qui reste marocain, avec un bon terrain, avec deux équipes qui se connaissent bien et tout. C'est aussi particulier. En ce qui concerne le mot revanche, j'aime pas tellement ça, ce mot-là. J'ai pas senti chez mes joueurs forcément un esprit de revanche. C'est plutôt quelque chose de vouloir faire quelque chose, de s'imposer par eux-mêmes, peu importe le Raja. Après, il y aura ma mélodie, il y aura le club congolais aussi, qui sont très forts. On est dans un groupe très fort, très homogène et tout, et ça va être difficile pour tout le monde, on en a conscience. Nous, on veut s'imposer par nous-mêmes. Je pense que le passé, quelque part, entre guillemets, bien sûr, n'existe pas. Ce qui compte, c'est l'expérience des joueurs tels que Al-Arabi, tels que Aboudem, etc., ça, qui doivent apporter à cette équipe. Ils ont autant d'expérience africaine que moi. Donc, c'est un ensemble. Ce qui compte, c'est vraiment regarder devant soi, vouloir s'imposer, vouloir faire les choses qu'on met en place à l'entraînement et dans les matchs. Et on a des qualités pour s'imposer, j'en suis.
Amine, voilà, vous avez suivi Hubert Vélude, le Raja de Casablanca, AS FAR, entre les deux, qui pourrait l'emporter?
Ben, tout d'abord, ce sont deux clubs qui ont dominé la saison dernière le championnat marocain et la Coupe du Trône. Et c'est le Raja qui avait tiré les marrons du feu in extremis. Il y aura donc un air de revanche. En championnat, les deux équipes n'ont pas véritablement mieux démarré que la Renaissance de Berkane qui domine de la tête et des épaules. Et c'est déjà une première rencontre de compétition continentale où les deux entraîneurs sont sur la sellette. Le Raja n'a pas gagné depuis 6 matchs en championnat, notamment lors d'un derby qui a été disputé contre le Wydad vendredi. Et l'ASFAR connaît une trajectoire sous forme de montagne russe. Donc, a priori, à Casablanca, devant le public du Raja uniquement, avantage au Raja parce qu'il joue à domicile. Mais la dynamique de confiance du Raja n'est pas véritablement au summum. Et du côté de l'ASFAR, on se pose des interrogations. Donc, je plaiderai plutôt pour un match nul qui pourrait arranger dans l'autre match Mamelodi Sundowns qui recevra les Congolais de Maniema.
Élisée, il y a d'autres affiches qui sont prévues. On va aussi parler de la première journée des phases de poule en Coupe de la CAF.
Et bien évidemment, cette première journée où il y aura de très belles oppositions, il faut le dire, puisque le tenant du titre, le Zamalek du Caire, est très attendu et va quand même faire son entrée dans cette compétition en affrontant quand même une très grande équipe de mozambicaine, hein, le club mozambicain de Black Bulls. Il faut dire que ça s'annonce très compliqué. Il y a aussi le second club, le second représentant égyptien dans cette poule D, Al-Masri, qui va jouer contre la redoutable équipe du Nigeria, Enimba Daba, qui a remporté deux fois de suite la Ligue des Champions. C'est vrai que ce n'est plus Enimba Daba d'alors des années 2003 ou 2004, mais je vous assure, Enimba reste un nom redoutable sur le continent africain. On aura aussi cette explication entre Simba Sport de la Tanzanie contre les Angolais de Bravos Domaki. Il y a aussi les Algériens de Constantine qui vont affronter bien évidemment les Tunisiens du club sportif Sfaxien. Il faut le rappeler que il y a beaucoup de clubs venus du nord d'Afrique qui sont engagés dans cette compétition. C'est souvent le cas depuis les dernières saisons où en Ligue des Champions, on voit véritablement les forts, hein, notamment les clubs venus du Maghreb et d'Égypte contre les clubs sud-africains, le Mamelodi Sundowns naturellement, qui arrivent toujours à se qualifier pour les quarts de finale. Donc, c'est dire que cette année encore, il y aura bon nombre de clubs venus de l'Afrique du Nord, hein, qui vont prendre part à cette Coupe de la Confédération. C'est vrai qu'il y aura à la SEC Abidjan présent et à la secteur finaliste de la dernière édition. Puis, le club cher à notre ami Amédine Sy, le Djarab de Dakar, un club qui appartenait à un ancien dirigeant de l'athlétisme qui est décédé il n'y a pas très longtemps. Donc, il y aura le Djarab de Dakar qui va représenter Dima, le Sénégal.
Jules, le lancement du compte à rebours pour la Coupe d'Afrique des Nations CAF Total Energy 2025 a été officiellement annoncé, avec le Maroc qui se prépare à recevoir cet événement prestigieux pour la deuxième fois dans son histoire. La dernière édition de la CAN au Maroc date de 1988. Alors, il y a de nouvelles nations dans cette compétition. Il y a d'autres nations, des habitués, mais qui vont manquer son rendez-vous.
Oui, bien sûr. Il y a de nouvelles nations, les zones comme la zone Afrique australe. Et on fait le plein, il y a l'Afrique australe, il y a également l'Afrique de l'Est où on voit apparaître certains pays comme l'Ouganda. Et donc par contre, l'Afrique de l'Ouest, son quota a relativement baissé. L'Afrique centrale aussi envoie cette fois-ci un peu plus de représentants. Donc en fait, le casting est beaucoup plus varié. Et donc on aura de beaucoup de passion autour du stade et même sur le terrain.
Amine, c'est une compétition que vous attendez impatiemment. Amine Birouk, est-ce que vous m'entendez, Amine?
Amine, oui, je vous reçois maintenant.
Oui.
Donc je disais 13 mois pour patienter, le temps que les stades soient prêts, le temps que le calendrier soit approprié, parce que cette année, il y a au milieu la Coupe du Monde des clubs qui est venue un peu bouleverser le calendrier de la CAF, qui avait prévu de l'organiser en été. Et on verra. Donc, aujourd'hui, ce qui est certain, c'est que le pays est prêt en termes d'infrastructure, en termes de stade, en termes de moyens financiers. L'engouement du public est là. Et le Maroc s'engage à organiser la plus belle Coupe d'Afrique des Nations de l'histoire, pourvu que le spectacle soit au rendez-vous. Et en attendant, il y aura d'autres étapes nécessaires, à savoir la fin des éliminatoires de la Coupe du Monde, la Coupe du Monde des clubs pour certains joueurs. Et on espère que l'année prochaine, aux abords de décembre, des fêtes de Noël, des fêtes de fin d'année et du début de l'année 2026, il y aura les meilleurs joueurs africains et le meilleur spectacle possible sur les pelouses marocaines.
Mais c'est un trophée qu'il faut absolument gagner pour le Maroc.
Oui, certainement. L'attente est longue. Hein. Ça fait 50 ans que le Maroc attend la Coupe d'Afrique, sa deuxième Coupe d'Afrique des Nations. Il sera dans la position de l'équipe à battre, dans la position du chassé. Et on verra si ce statut de favori convient parfaitement aux Lions de l'Atlas qui ont brillamment survolé la phase de qualification, même s'ils étaient d'office engagés à organiser la Coupe d'Afrique et donc engagés à être parmi les 24 présents dans cette belle compétition.
Ahmed Insi, AfroBasket 2025, cette compétition va se dérouler en Angola du 12 au 24 août 2025 et le Dakar Arena a reçu des matchs éliminatoires ce week-end.
Tout à fait. Après les groupes B, D et E, où la Côte d'Ivoire, le Cameroun et la Tunisie sont assurants de participer à la grande messe quand même du basket continental qui est prévu en Angola, comme vous venez de le dire. C'était au tour des groupes A et C d'entrer en lice et c'était ce week-end à Dakar Arena et ça c'est déjà que le Sénégal qui a accueilli cette compétition a réalisé un parcours sans faute lors de cette seconde fenêtre avec 3 victoires en autant de sorties. D'ailleurs, les Lions terminent à la première place de ce groupe C. Ils ont démarré cette compétition en dominant d'abord le Rwanda sur le score de 81-58 avant de se balader parce que c'était une balade face au Gabon qu'ils ont battu par 101, il faut le dire, à 58. Il fallait le faire et les Lions l'ont fait. Mais pour le troisième et dernier match, c'était un duel de Lions puisque le Sénégal devait rencontrer le Cameroun, les Lions indomptables. Ce fut un match extrêmement difficile pour les Lions du Sénégal qui se sont imposés sur le score de 87-83. Soit 3-4 petits points d'avance seulement. Il faut le dire, les Camerounais ont réalisé un excellent match. Les Lions indomptables ont même failli renverser les Sénégalais, puisque menés de 18 points, ils sont parvenus à revenir à la hauteur de Youssou Ndoye et ses partenaires. Mais à la fin, ce sont les poulains de Ngaï de Sagame Diop qui ont mieux négocié quand même le money time pour s'imposer. Pour le groupe A, comme vous le savez, la RDC a un peu créé la surprise puisque la RDC a fait comme le Sénégal, 3 matchs, 3 victoires et ils sont premiers dans ce groupe. Ils ont battu quand même lors du troisième match, un match qu'on considérait comme une finale contre le Soudan du Sud et c'est la RDC qui s'est imposée après prolongation 76-69, c'est au bout du suspense et c'est la RDC et leader de ce groupe suivi par les Sud-Soudanais qui ont 2 victoires. Les Maliens se contentent de la 3e place puisqu'ils n'ont eu qu'une seule victoire, c'était face au Maroc. Et malheureusement, le Maroc de mon ami Amine Birok a terminé à la dernière place de ce groupe avec 3 matchs et 3 défaites. Il faut retenir que après cette fenêtre, il y aura une autre fenêtre qui va se dérouler au mois de février et que les 3 premiers de chaque groupe se qualifieront pour l'Afrobasket qui sera organisé en Angola, Eric.
Merci, Amédine. Le 20 novembre, c'est la journée de la conscience noire au Brésil, un jour férié très spécial pour la population, en vue d'inaugurer une campagne appelée Golden Roots, dont l'objectif est de normaliser la connaissance de l'origine de chacun. L'occasion a permis de présenter les résultats d'un test ADN effectué sur Vinicius. Jules, les résultats indiquent que Vinicius avait des ancêtres de la tribu Ticar, l'une des plus importantes du Cameroun.
Si c'est confirmé, si cela est confirmé, Eric, l'allié du Real serait donc d'origine Tikar, cette ethnie du centre-ouest du pays voisine des Bassa et des Mbamwa, un véritable vivier de très grands sportifs. Quelques noms, et pour vous les donner, Thomas Nkono, Antoine Bell,